France Musique. Les grands entretiens de Pablo Iras Casado.
Bonsoir, je suis Pablo Iras Casado. Je suis chef d'orchestre. Je suis né à Granada, au sud de l'Espagne, en Andalousie, en 1977.
Alors Pablo Iras Casado, vous êtes un chef de chœur, chef ensuite devenu chef symphonique de fosse et de plateau. Vous allez prendre en 2010 la direction de l'orchestre de Saint-Luc à New York. Et puis il va y avoir en parallèle maintenant vraiment les deux dansent ensemble, si je puis dire, l'opéra et le symphonique. Je crois que l'opéra, il y a un moment assez fondamental et qui nous rapproche du Paris où on se rencontre ici, Pablo Iras Casado. C'est le moment où vous êtes ici assistant à l'opéra de Paris, à l'opéra Bastille, avec Sylvain Cambrelin. Et là, je crois que ça va être pour vous l'occasion d'écouter énormément de musique, de répertoire, de voir travailler un chef en fosse. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire de cette période-là, de cette effervescence particulière, peut-être, de ces années 2006-2007?
Là, oui, c'était un moment très, très particulier qui m'a changé la vie. Et m'a fait aussi changer un peu mon chemin, virer de façon magnifique. C'est là où ma relation avec la France, avec Paris a commencé. Et pour aller au début, j'étais étudiant déjà avec Sylvain Cambrelin. J'ai fait un cours je pense que c'était à Mainz, en Allemagne, un cours de direction chorale. De haut niveau, de répertoire super complexe avec un corps professionnel. Et je lui demandais, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour rester en contact avec vous? Est-ce que vous avez besoin d'un assistant? Et il m'a dit, OK, on parlera. Et il m'a dit, l'année prochaine, j'ai une production de Simon Boccanegra. Bah, si tu veux, j'aimerais bien que tu sois mon assistant. Et là, je pouvais pas y croire pour moi, évidemment. Un chef de chœur, qui commence à faire des choses ici et là. D'un coup, Opéra de Paris, ça sonnait énorme. Il m'a dit une petite note, il faut absolument que tu parles français.
C'est grâce à lui qu'on vous entend comme ça aujourd'hui.
C'est grâce à lui, oui, oui. Absolument, absolument, c'est sa faute. Alors, je me suis dit, je vais déménager à Paris et au moins passer du temps à Paris parce que c'est la langue, c'est aussi l'opéra. Je ne connaissais pas le monde de l'opéra. Le système de répétition, quel est mon rôle dans une production d'opéra? Il est complexe, il faut bien connaître la dynamique, connaître le répertoire et tout. Alors, j'ai pris la décision de venir à Paris 3 mois en avance de la première répétition. Et c'était romanesque, si on dit, parce que la façon dont je suis arrivé à Paris, ils ont perdu ma valise. Et bon, je parlais pas le français, bon, je connaissais personne.
La bohème.
La bohème, complètement. Et à l'Opéra de Paris, ils m'ont donné aussi la possibilité d'aller tous les jours, d'avoir le planning. Et à Bastille, évidemment, chaque jour, il avait 3 productions d'opéra qui se passaient en même temps. Et comme ça, j'ai vu, pendant 3 mois, beaucoup de répertoires. Voilà, j'assistais à beaucoup de répétitions d'orchestre, de scène, à piano, etc., etc. J'ai passé toute ma journée dans l'opéra.
Hey!
Et ça m'a beaucoup influencé le fait aussi que c'était la période de Jean Mortier, sa vision de l'opéra, sa vision de ce qu'une production d'opéra comme force créative doit être, la façon dont les équipes artistiques doivent travailler ensemble, et son concept de l'opéra comme art radical et moderne, c'était très important. Ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup connecté avec ma façon de vivre la musique, toujours dans un procès créatif collectif. Une des raisons pour laquelle l'opéra me passionne et je me sens comme chez moi à chaque fois que je suis dans le théâtre.
Gérard Mortier, c'est une figure en effet très importante. Et quand vous parlez du théâtre au Réal, Pablo Heras Casado, là aussi, il y avait encore Gérard Mortier au début. Il y a par exemple la production, j'imagine que c'était important pour vous, parce qu'en plus c'était une création d'El Público.
Oui, c'est un des projets après Mahagoni que j'ai fait avant, un des projets importants pour lui. Et c'est dommage que lui, il a pas pu le voir réaliser. Il est décédé un an avant, je crois. Mais oui, je crois que c'est un des grands moments de l'histoire récente de Théâtre Real, avec une telle pièce de Federico Afialorca, une musique, je crois, magistrale de Mauricio Sotelo. Il y a quelqu'un qui connecte mieux que personne le monde lyrique, symbolique, surréaliste de Lorca, qui connaît vraiment très bien, au fond, le langage du flamenco. Mais aussi qu'évidemment, c'est un compositeur de la modernité européenne. Je crois, après Manuel de Falla, il est la personne qui a su faire tellement bien cette connexion entre ces deux mondes.
Si on parle de ce festival de musique et de danse de Grenade, dont vous avez pris la direction artistique, Pablo Heras Casado, est-ce que c'est l'accomplissement d'un rêve, parce que ce festival, il existait quand vous étiez petit? Est-ce que c'était un Olympe rêvé? Est-ce que ça l'est devenu quand vous étiez adolescent? Est-ce que vous y avez des souvenirs?
Ça est devenu un rêve et un cauchemar, en même temps. Bon, je rigole. Un peu. Je rigole un peu seulement. Parce que, ben évidemment, ça a toujours été pour moi un Olympe. Et un Olympe, littéralement, parce que c'est dans la colline de l'Alhambra. On monte vers un autre monde. Et c'était l'occasion annuelle de voir des plus grands artistes du monde qui visitaient le festival une fois par an. Mais je n'avais jamais imaginé de devenir directeur du festival. Et même c'était pas dans mes plans. Je voulais pas y être, c'était pas une chose que je voulais faire. Mais d'un coup, ils me l'ont proposé de tous les côtés. Et bon, je croyais qu'ils avaient raison, qu'ils étaient tout à fait convaincus que c'était moi la personne. Et bon, je me suis dit, bon, allons-y. Et c'est un rêve, évidemment, c'est une responsabilité magnifique. C'est 68 ans de festival. C'est vraiment une mission de ma part très importante. En plus, en étant...
Avec l'âme grenadine.
Avec l'âme grenadine, évidemment. Avec la maison qui garde l'Alhambra et le palais de Carlos Quinto, qui c'est le palais d'eau. Alors, mais en même temps, j'ai parlé de cauchemar parce que, évidemment, avant, aller à Granada, c'était mon paradis perdu.
Le refuge.
Le refuge. Mais ça, c'est plus jamais. Mais bon, c'est un plaisir de toute façon.
Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decir de mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Les grands entretiens de Pablo Heras Casado, France Musique.
Quand on pense au festival Pablo Heras Casado, je pense, parce qu'il est tout proche de nous, au festival d'Aix-en-Provence. On a évoqué la France, l'importance qu'elle avait pour vous, l'Orchestre de Paris. On a parlé aussi de Gérard Mortier, de cette importance de la dramaturgie. Et peut-être que vous me voyez venir, mais vous avez dirigé Carmen dans la version de Tcherniakov. Et quand on voit cette production, on se dit, tiens, peut-être qu'un Gérard Mortier... C'était une manière de s'emparer d'une œuvre et un geste théâtral qui lui aurait parlé. Vous, comment vous l'avez vécu, cette version très déstabilisante aussi de Carmen?
Je pense que c'est un coup de génie. Je pense que Tchernikov est un génie. Et ce qu'il a fait avec Carmen, le point de départ, évidemment, je m'en souviens des premières réunions ici à Paris, quand on a fait les réunions pour se connaître, parler un peu du cast, de la taille du chœur, le concept de comment il voudrait utiliser le chœur aussi musicalement.
Génial, le chœur à Aïdes.
Aïdes, c'est formidable. Et c'est un trésor que vous avez ici en France, que j'ai découvert grâce au festival, à cette occasion. Ils ont fait un travail monstrueux, magnifique. Ce qu'ils ont fait musicalement, pas seulement musicalement, mais scéniquement, c'est magnifique. Et alors, Tcherniakov, il a dit à cette réunion, oui, ça c'est un opéra, j'étais enfant, je l'écoutais, au bout d'un moment, j'aime plus. Alors, dire ça avec un opéra que tu vas faire, que tu vas diriger, etc., c'est pas un bon commencement, j'aime pas Carmen. Mais finalement, il voulait un peu, voilà, comment dire, pâter les bouchons, un peu provoquer, hein, et dire, bien, ok, tout le monde connaît Carmen, tout le monde connaît l'histoire parfaitement, exactement ça ce qui se passe, il y a tous ces moments qu'on attend, comme il a renforcé complètement l'histoire, il a changé l'angle complètement et nous a fait suivre Carmen avec une cohérence de que le texte, toutes les musiques, à chaque moment quand on arrivait à la partie musicale, ça faisait du sens, mais avec un angle différent. La tension dramatique, parce qu'il a créé une histoire vraiment très complexe et très consistante vers la fin, a fait tout le monde être expectante de ce qui va se passer, où est-ce que va terminer toute cette histoire. Et je trouve que c'est un chef d'œuvre. Et je suis sûr que Mortier aurait voulu le faire à son théâtre, absolument.
Et là, Pablo Heras Casado, voilà une collaboration où la vision d'un metteur en scène, j'imagine, permet au chef que vous êtes de revoir une partition que vous connaissiez sans doute. On met pas le même relief au même endroit et c'est une manière de la relire avec une fraîcheur.
Tout à fait. Ça c'est pour moi la valeur la plus importante de cette approche. Et une production d'opéra comme ça, évidemment, pour moi, c'était aussi l'opportunité de revisiter. L'opportunité aussi d'avoir du temps pour répéter, travailler, avoir une vraie troupe de jeunes chanteurs. J'avais déjà fait Carmen au Met, au New York, au Mariinsky, et recommencer à étudier, recommencer à voir, et avec un orchestre que je ne connaissais pas du tout, avec un casque comme ça. Et là, de ce côté-là, c'est une des expressions les plus importantes de ma vie. Parce que finalement, les collègues qui venaient d'autres théâtres, des gens qui viennent au spectacle, même aussi les critiques, mais surtout aussi les gens de l'orchestre qui ont redécouvert la musique, cette musique. Et là, c'est un des meilleurs compliments qu'on peut avoir comme artiste. Ça, c'était une expérience très, très forte.
Thank you. Aix-en-Provence, il y a aussi eu Pablo Heras Casado, une flûte enchantée, mm-hmm. mise en scène magnifique de Simon McBurney. Mm-hmm. Oui, absolument magnifique. Mm-hmm. C'était le Freiburger Baroque Orchestra.
Ouais.
Là, c'est un orchestre avec lequel vous avez aussi une relation très étroite, beaucoup de projets. C'est Gérard Mortier qui dit, de toute façon, un orchestre, il préfère avoir plusieurs maîtresses qu'une épouse légitime.
Je crois que l'idéal, c'est avoir une épouse, se marier en tout cas, et laisser aussi connaître de maîtresses en même temps. Mais c'est important d'être marié, d'avoir une stabilité et aussi d'avoir d'autres expériences. Ça enrichit le mariage. Et je pense que même il faut, quand on est marié avec un orchestre, il faut inviter des chefs qui sont encore mieux que toi. Ça enrichit. Mais je parle d'orchestre. Et c'est avec l'orchestre baroque de Freiburg, c'est une relation qu'on a commencé, ça fait longtemps. On a fait beaucoup de projets d'enregistrement. Mais il y a une particularité très importante dans cette relation, et très jolie, c'est que c'est un orchestre qui a une longue tradition sur le répertoire baroque, pré-classique, classique, mais à un moment donné, quand ils ont commencé à faire le parcours vers la musique romantique du 19e siècle, ils étaient vierges. Et ils m'ont demandé à moi de commencer ce parcours avec eux, en tant que quelqu'un qui connaît bien la pratique historique, l'interprétation historique, mais en même temps qui est un chef d'orchestre, qui connaît bien le langage orchestral. Alors on a eu l'occasion de créer quelque chose presque de zéro, avec toute la tradition, tout le style, les manières et le travail de son que cet orchestre a. Mais à chaque fois qu'on faisait un nouveau répertoire, qu'on avançait de Schubert à Mendelssohn à Schumann, c'était toujours un défi. C'était toujours aller vers des territoires inconnus. Après 7-8 ans, je crois déjà, c'est créé déjà quelque chose très fort et unique. Il y a un son déjà qui c'est à nous.
Vous êtes un auditeur, c'est-à-dire que quand vous êtes chez vous, Pablo Heras Casado, non pas forcément d'écouter vos propres disques, mais est-ce que vous avez plutôt une quête de silence ou une boulimie ?
Non, c'est surtout du silence, vivement le silence. Pas de télé, je n'écoute pas de disques, seulement quand je me mets à travailler. Et si je me propose de connaître un tel répertoire, une telle version, mais sinon, je dors le silence, aussi tant que possible. Je mets jamais la radio ou la télévision ou non, non. Si j'ai la chance d'être à Granada, là, c'est les cloches et les oiseaux et les fontaines de l'eau. Voilà, c'est que ça.
Et vous dites que enregistrer, c'est la possibilité de laisser une trace. Laisser une trace, ça peut aussi être, Pablo Heras Casado, de transmettre la transmission, l'enseignement. Mmh. Je crois que vous publiez un livre qui est peut-être une première pierre dans ce sens-là, mais est-ce que c'est une évolution? Vous êtes aujourd'hui tout jeune, hein, le début de la quarantaine, mais quand vous vous projetez un peu loin?
Je crois que c'est une responsabilité énorme. Je me rends compte, avec le parcours des ans, de la responsabilité qu'on a, pas seulement avec les musiciens, pas seulement avec la jeune génération, mais aussi avec le public en général. Il y a un certain pouvoir d'influence avec ce qu'on dit, ce qu'on opine, qui est très important et qui est une chance pour, à travers la musique, en tant que musicien, qu'artiste, avec le compromis social qu'on doit avoir aussi, pas seulement des gens qui entrent dans la salle et font un bon concert, après s'en va et s'en fout, mais être vraiment avoir un compromis social avec le moment qu'on vit. Et avec un livre, par exemple, je n'avais jamais pensé à créer ce livre parce que c'est déjà, le plan de temps, c'est très intense. Et en plus, quel est le sens du livre, non? Moi-même, je suis dans le chemin, je suis dans l'apprentissage toujours. Et finalement, eux, ils voulaient que je racontais le parcours quand on est là. Et la façon dont, bon, si on vient d'une famille modeste dans la banlieue à Granada, arriver à Carnegie Hall, au Metropolitan, quel est le parcours et parler entre-temps de ces personnalités, tous ces gens, toutes ces expériences. Et ma surprise, c'était que finalement, il y a tellement de gens qui sont musiciens, pas musiciens, des gens qui connaissent la musique classique, des gens qui ne connaissent pas du tout la musique, mais qui étaient curieux parce qu'ils connaissent mon nom, qui ont apprécié beaucoup. Et là, je suis très content d'avoir fait ça parce que c'est un peu un témoin d'une période, un moment créatif. J'espère qu'il peut aussi aider autres gens à voir que, bon, on peut vivre la musique d'une centaine de façons, mais qu'il faut vraiment s'approcher.
Pour terminer ce voyage en votre compagnie, Pablo Heras Casado, on est parti de votre enfance à Grenade. En effet, vous êtes passé par toutes les plus grandes scènes avec vertige, j'imagine, quand pour les premières fois on arrive à la Scala, à Carnegie Hall et dans tous ces grands endroits mythiques. Mais si demain vous vous retrouvez sur une île et que vous n'avez qu'une partition, ce serait laquelle?
Je déteste choisir. Je pense que vous avez compris déjà que faire un choix, c'est pas ma meilleure qualité. Une partition. Ben, je vous dis très honnêtement, la première image qui est venue sur ma tête, c'est la Passion selon saint Matthieu. Voilà.
Et voilà un extrait de La Passion selon saint Matthieu, la partition élue par Pablo Heras Casado, si jamais il ne devait y en avoir qu'une seule, ici honneur à Nicolaos Harnoncourt. Pour clore donc cette série des grands entretiens avec le chef espagnol Pablo Heras Casado. Réalisation Christine Amado, prise de son Jérémy Tuil, mixage Pierrick Charles, attaché de production Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.